Henri de Régnier, Contes à soi-même, au lieu d'un frontispice. De ces contes, le titre est encore ce qui m'y plaît le plus, comme pouvant en devenir l'excuse au besoin. Sinon que chaque lecteur bienveillant approprie à ses songes ce dont ils s'accommoderont, et j'aurais eu par surcroît le plaisir de m'être dit quelques-uns des miens. Aussi aurais-je voulu pour frontispice à ces pages tels emblèmes significatifs. Un peintre de mes amis les eût dessinés. Il y aurait figuré, par exemple, un miroir ou une conque ou une gourde curieusement ornementée. Il l'aurait représenté en étain, car j'aime ce métal qui a un aspect de très vieil argent humble, éraillé et intime. Un argent un peu mat, comme si l'approche d'un souffle le ternissait, ou si son éclat le tempérait de la moiteur d'avoir été longtemps tenu par une main tiède. L'allégorie sans doute eût été plus claire par une conque. La mer en dépose de charmantes sur le sable des plages, parmi les algues doucereuses, un peu d'eau et des coquilles. Une nacre, çà et là, vif sous leur écorce, en iris et luxueuses plaies, et leur forme est d'une malice si mystérieuse qu'on s'attend à entendre chanter à son oreille les sirènes. L'écho indéfini de la mer y murmure seul, et ce n'est en lui que le flux de notre sang qui imite le cri intérieur de nos destinées. Mais un miroir vaudrait mieux, certes. Je suis sûr que mon peintre en enguirlanderait le cadre ovale de fleurs ingénieuses, et qu'il saurait contourner autour de la poignée le nœud de quelque serpent caducéen. Mais mon ami n'a pu se prêter à ma fantaisie. La sienne est de ne plus peindre et de vivre, comme j'ai vécu, les longues heures de son silence, tournées vers le visage de ses songes. Le sixième mariage de Barbe Bleue. L'église était toute somnolente. Il y venait par les vitraux décolorés, plus assez de lumière pour s'y distraire, dont pas assez d'ombre encore pour y pleurer. Aussi quelques femmes à genoux, çà et là, semblaient y attendre plus d'obscurité. Elles restaient taciturnes sous leurs coiffes tutélaires, les hautes coiffes du pays, toutes de douces toiles, sous qui s'abrite le visage naïf des jeunes filles et où s'ensevelit presque à l'écart la face usée des vieilles femmes. La concavité sonore du vaisseau amplifiait le bruit d'une chaise remuée. Des clés de la voûte pendaient une à une des lampes et un lustre d'un vieux cristal balançant presque imperceptiblement sa couronne de cires éteintes. Il y avait des fleurs et des figures sculptées au chapiteau des piliers et sur la cuve du bénitier, autour duquel des gouttes répandues de l'eau sainte qu'on s'offre du bout des doigts par un attouchement lustral et dont on se signe, mouillaient le pavé. Un cœur, une odeur d'encens prolongeait par toute la nef un souvenir des dernières vêpres, et même sa permanence, à la fois nuptiale et funéraire, évoquait une rétrospection plus lointaine d'obsèques psalmodiées et de noces joyeuses. Fût-ce à cause de l'heure où j'arrivais cet après-midi à Quimperlé, et qu'alors les cloches tintaient d'un bruit argentin comme le guénon léger de la ville même, dans un ciel de soleil menacé de nuées moites à l'horizon, mais en mon esprit prédomina une idée de fête, ces sonneries me représentant des liesses de fiançailles et des cortèges au carrefour et au parvis. Le dimanche, en lui, a aussi quelque chose de pompeux et de décoré. Ici, il est oisif plutôt et réquiescent. Les maisons sont anciennes et comme assoupies. On est aux portes ainsi que pour l'attente d'un passage ou au retour de quelque joie. Les blanches coiffes ailées ont un aspect de cérémonie et de complication. Elles se balancent à la marche des filles, et leur ordonnance est dentelée de malice et brodée de coquetterie. Sur la tête des aïeules, elles se simplifient et s'endorment avec des cassures, nonchalante et un peu roide. Les arbres du mail alignaient régulièrement, dans l'eau accueillante de la rivière, leur mirage désœuvré, d'accord avec le jour dominical qu'attestait ainsi le batelier, assis, jambes pendantes, sur le parapet du pont et qui m'interpella pour l'offre d'une promenade sur le Léta. La langoureuse rivière ne coulait pas et s'étendait entre les quais et les arbres, puis elle tournait avec lenteur, attentive et engourdie, à plein bord, au ras de l'herbe d'une prairie que dominait au loin une ombre forestière sur un ciel nuancé déjà de crépuscule. L'horloge du clocher sonna 5 heures. Une feuille se détacha d'un petit orme, tournoya, se posa sur l'eau et y resta immobile. Je descendis vers la barque et elle démarra doucement. Les deux rameurs, du coupant de leurs rames, entamaient l'eau unie et compacte, où le sillage angulaire de la barque s'élargissait jusqu'aux berges. Un brin d'herbe y remuait alors, où, d'un groupe de roseaux, un seul, le plus grand, oscillait longtemps. Devant moi, c'était l'avenue silencieuse de la rivière, la quiétude de sa coulée ou l'attrait de son tournant. Puis le paysage vers qui j'allais séparait son ensemble à mon approche. Ils se partageaient et glissaient de chaque côté en files d'arbres, en prairies, en feuillages, se correspondant ou s'alternant d'un bord à l'autre. Leur double passage reconstituait derrière moi, si je tournais la tête pour les voir, une ordonnance et une surprise nouvelle dont l'aspect se modifiait encore à mesure de mon progrès vers ce qui fournissait à son changement la matière de sa variété. Ce furent des prés d'une herbe vaporeuse frôlée de lambeaux de brume, des chemins bordés de peupliers, des roseaux et des iris aux flexibles feuilles en épée. Tout se refléta dans l'eau exacte, et quoique le jour diminuât seulement, le silence était celui du plus calme soir. Les marbrures du ciel tachetées de nuages, çà et là, empierrait de plaques l'opacité de l'eau qui, appesantie, semblait descendre entre ses berges. Elle descendait d'autant que les hauteurs riveraines la dominèrent davantage de leur verdure. La proximité de grands arbres de plus en plus nombreux et hauts l'empreignit d'un surcroît de gravité. Il s'y creusa des porches d'ombre. La ténèbre s'y voûta en grotte au seuil desquelles finissait le dernier miroitement du ciel dans cette onde, et la rivière entra dans la forêt, de toute son eau d'ébène, avec la barque où je ne voyais plus le bois des rames aux mains des rameurs, qui d'un geste maintenant énigmatique semblait supplier désespérément l'effroi souterrain de quelques styx. Ils avaient ramé longtemps, aussi, parfois s'arrêtaient-ils, d'accord pour se reposer, avec la curiosité du site. Là alors la barque s'encastrait net et comme soudée à son reflet dans cette eau pétrifiée, où, des avirons, tombaient des gouttelettes, une à une, énumératrices du silence qui comptait son heure à leur clepsydre minutieuse. Le soir était venu, moins peut-être que je n'étais allé vers lui. Il habitait la forêt et y paraissait congénère des lourds feuillages riverains. Le lieu était taciturne et le bateau s'obstina, sédentaire à un endroit où la rivière élargie en lac semblait finir noir, informe et stable, et sans continuer son cours, s'approfondir indéfiniment, superposant ses ondes à elles-mêmes et s'accumulant en soi. En même temps que le spectacle de ma promenade avait changé avec le crépuscule cru et abouti à presque la nuit, ma tranquillité d'esprit avait dégénéré, à travers toutes les nuances de la mélancolie, en une sorte d'angoisse. J'allais en joindre au batelier de s'en retourner et de quitter ce bassin solitaire qui ne mirait en lui qu'un silence qui était l'âme de l'ombre, quand j'aperçus, à l'écart d'une petite anse, une maison, là, triste, close et charmante, au point que l'envie me vint de cueillir dans le jardin qui l'entourait quelques-unes des belles roses qui y croissaient. J'en respirerai l'odeur durant mon retour par la morne allée d'eau qui m'avait conduit jusque-là. Une femme sortit d'un petit pavillon et m'offrit de visiter la demeure qu'elle gardait. L'isolement, l'accès difficile du cottage, avaient, qu'elle m'avoue, éloigné les acheteurs, quoiqu'il va souvent ici du monde, ajoutait-elle, voir la ruine. Quelle ruine ? Ah, celle, monsieur, du château de Barbe Bleue, du seigneur de Camoëte. Son visage était calme sous sa coiffe blanche de paysanne, et sa bénigne bouche souriait à demi presque à regret. La grande cape qui enveloppait son corps tombait à plis graves. Avec le costume immuable de ce pays, elle ressemblait à ses pareils d'autrefois, et, en un recul singulier, elle m'apparaissait, au seuil des vieux âges, comme une contemporaine du sire, légendaire en sa tragique histoire. Sa demeure. Et je pensais à la haute tour, aux belles robes orfèvreries et sanglantes, aux supplications des douces lèvres pâles, au poing brutal tordant les longues chevelures éplorées, lendemain funeste de noces captieuses et tentatrices, dont j'avais entendu l'écho dans les cloches festoyantes de ce jour, et dont, avec l'encens, j'avais respiré le souvenir dans la nef de la vieille église. Ce fut par un crépuscule pareil à celui-ci, sans doute, que Sœur Anne, qui durant tout le jour n'avait vu que le soleil poudroyé, pleura de ce que rien n'était tenu vers elle, pour qui l'heure inexorable était proche. La haute tour du sommet de laquelle l'anxieuse vigilante avait interrogé le circuit du vaste horizon de la forêt, les chemins déserts et les deux rives de la rivière étaient la même que celle dont j'entrevoyais devant moi le noir débris. De l'antique château, seule, elle survivait à l'écroulement de la demeure orgueilleuse, ensemble et à sa propre caducité, par ce pan de mur de rude pierre qu'elle dressait dans l'ombre. Il était emmantelé de telle hier, debout sur un tertre d'herbe et de mousse qui rongeait sa base, montait le long de ses parois, pénétrait entre ses joints et s'épanouissait dans ses fissures, et sa solide masse impressionnait toute la forêt environnante. Alentour, le sol était inégal, déprimé ou exhaussé selon qu'il y avait là une douve ou une muraille. La destruction a des caractères divers. Parfois, ce qui tombe s'efface doucement, peu à peu, s'émiette et disparaît, au lieu de s'attarder en ruines récalcitrantes qui résistent au temps, lui dispute sa déchéance et tasse sa chute en quelques amas bruts dont la terre ne reprend pas les matériaux sans en rester bossuée et difforme, de la difficulté qu'elle a eue à les résorber ou à les mal couvrir de sa verdure. L'obscurité presque complète était devenue une présence par l'aspect qu'elle avait pris de ce décombre pour me regarder de toute l'opacité de son vieux bloc de granit qui résumait en lui la ténèbre et lui donnait une forme. Il était impossible que des ombres n'errassent pas autour de ces pierres, et je ne pus me les imaginer autrement que douces, mélancoliques et nues. Nues de leurs robes appendues au mur du réduit sinistre, où le sang successif des cinq épouses avait rougi les dalles. Comment eussent-elles erré autrement que nues, puisque leur belle robe avait été la raison de leur mort et le seul trophée que voulut d'elles leur singulier mari? L'une n'avait-elle pas péri, la première, à cause de sa robe blanche, comme la neige? Que foulent de leurs sabots de cristal sur les tapisseries des chambres des licornes qui marchent à travers des jardins, boivent des vasques de jaspe, et s'agenouillent sous des architectures devant des dames allégoriques de sagesse et de vertu? L'autre ne mourut-elle pas parce que sa robe était bleue, comme l'ombre des arbres sur l'herbe, l'été, tandis que le vêtement de la plus jeune, qui mourut aussi, douce et presque sans pleurer, imitait la teinte même de ces petites coquilles mauves qu'on trouve sur le sable gris des grèves, là-bas, près de la mer. Une autre encore fut égorgée. Un artifice ingénieux y disposait sa parure, de façon que les branches de corail qui enjolivaient d'arabesques le tissu changeant s'appariassent à ses nuances afin d'être d'un rose vif, où le lait était d'un vert vivace, et qu'elles s'aigrissent ou s'amortissent alors qu'il devenait brasin ou glauque. Une enfin, la cinquième, s'enveloppait d'une pièce de mousseline ample et si légère qu'en se superposant ou en se dédoublant, elle paraissait, selon son épaisseur ou sa transparence, de la couleur de l'aube ou du crépuscule. Toutes mortes, les douze épouses, avec des cris, des mains suppliantes ou des surprises stupéfaites et silencieuses. Pourtant, le bizarre et barbu seigneur les aima toutes. Toutes elles passèrent par la porte du manoir le matin, au son des flûtes qui chantaient sous des arcades de fleurs, ou le soir au cri des corps charmants parmi les torches et les épées, toutes venues des pays lointains où il les avait allées chercher, toutes timides parce qu'il était hautain, amoureuses parce qu'il était beau, et fières de confier leur langueur ou leur désir à l'étreinte de sa main. Les gais, mélancoliques ou doux souvenirs qu'elles laissaient à la demeure natale, ou de leur enfance en fleurs, s'était épanouie leur abondance jeunesse, non plus que les larmes de leur mère, ni les sanglots de leur vieille nourrice, ne les avaient point retenus de partir pour suivre au loin le fiancé de leur destin. On quitte tout pour aimer, et à peine, si en s'éloignant, elles tournèrent les yeux pour voir encore quelque ancien palais au bord du fleuve, avec ses terrasses en quinconce, ses parterres en guillochis et ses arbres en perspective. Bientôt, elle ne se souvenait guère d'une antique et pompeuse maison au coin de la grande place, dans la ville, ni des médaillons de la façade qui grimaçaient des figures grotesques, ni du marteau de la vieille porte qui, à midi, était toute tiède de soleil. Elles oubliaient le petit manoir au milieu des prairies, parmi les mâts où cocassaient le soir les rainettes alors qu'il va pleuvoir, et aussi le beau château et les domaniales futaies. Une même, qui vint d'outre-mer, ne songeait plus à l'île brute et sablonneuse dont la mer rongeait les rocs et battait les grèves et que l'hiver, le vent torturait, acharné contre sa solidité. À peine si elle pensait quelquefois à certaines petites plages de sable où elle jouait avec sa sœur quand la marée était basse et où elles avaient si peur au crépuscule. Hélas, il ne les aima que pour leurs robes variées, ses épouses douces ou altières. Et sitôt qu'elles avaient façonné les étoiles qui les vêtaient aux grâces de leur corps, qu'elles y avaient imprégné le parfum de leur chair et communiqué assez d'elles-mêmes pour qu'elles fussent devenues comme consubstantielles, ils tuaient d'une main cruelle et sage les belles inutiles. Son amour en détruisait et substituait au culte d'un être celui d'un fantôme fait de leur essence dont le vestige et le mystérieux délice satisfaisaient son âme industrieuse. Chacune de ces robes habitait une chambre spéciale du château. L'ingénieux seigneur s'enfermait pendant de longues soirées tour à tour dans l'une de ces salles où brûlait un parfum différent. Les mobiliers assortis aux murs, aux teintures, correspondaient à des intentions subtiles. Longtemps, passant sa main dans sa longue barbe parsemée de quelques poils d'argent, l'amant solitaire regardait la robe pendue devant lui, en la mélancolie de sa soie, l'orgueil de son brocart ou la perplexité de sa moire. Des musiques appropriées sourdaient du dehors à travers les murailles. Auprès de la robe blanche, ô tendre Hémène, ce fut la tienne, rôdaient des lenteurs de viol languissantes. Auprès de la bleue, qui fut toi, naïve poncette, le hautbois chantait. Et près de la tienne, mélancolique blismode, un luth soupirait, parce qu'elle fut mauve et que tes yeux étaient toujours baissés. Un fifre riait, suraigu, pour rappeler que tu fus énigmatique en ta verte robe racaraillée, tarsile. Mais tous les instruments s'unissaient quand le maître visitait la robe d'Alède, robe singulière qui avait toujours semblé vêtir un fantôme. Alors la musique chuchotait tout bas, car Barbe Bleue avait beaucoup aimé cette Alède. Elle était jumelle de sœur Anne. On eût pu les prendre l'une pour l'autre, et c'était à elles deux qu'il désirait que ressemblât la nouvelle épouse. Car elles sont six, ces ombres qui errent le soir. Autour de l'antique ruine, et cette dernière seule est vêtue. C'est parce que, petite bergère, tu gardais tes moutons sur une lande de bruyère rose et d'ajonc jaune, à la lisière de la forêt, debout assise parmi ton troupeau, en la grande cape de laine grossière, où s'abritait parfois contre le vent quelque agnelle chétive. Les beaux yeux font la simplicité d'un visage plus bel, et la tienne était telle que le veuf seigneur t'avait vu, en passant et t'aima et te voulut épouser. Il avait alors la barbe toute blanche, et son regard était si triste, ô pastourelle, qu'il t'attendrit plus que ne le tenta l'aventure d'être grande dame et d'habiter le château où tu lisais l'heure par l'ombre des tours sur la forêt. Rien n'était parvenu dans la solitude de la petite gardienne du fâcheux renom du noble sire, car comme elle était humble et pauvre, on dédaignait de lui parler, et fière, elle n'interrogeait pas ce qui passait devant sa chaumière, à l'écart entre deux vieux ormes dont ses moutons en s'y frottant usaient l'écorce en collier. D'ailleurs, elle ne regrettait pas d'être telle, puisqu'elle aimait, et quoiqu'elle eût voulu se pouvoir acheter quelque robe neuve pour l'occasion de sa noce approchante, mais elle s'en consolait, en pensant que son amie ne lui marqua jamais que lui déplût sa cape de laine et sa coiffe de toile. À l'aube, une fanfare de cors réveillait la forêt, et quatre bannières, déployées en même temps au sommet des quatre tours d'angle du manoir, ondulèrent au vent matinal. Une rumeur de fête remplissait la vaste demeure. Les couloirs bourdonnaient. Dans la cour, piaffaient les chevaux, les uns couverts de housses chamarrées, les autres portant des selles compliquées, les plus forts enjuponnés de mailles d'acier, et tous ayant au frontail, chacun, la tour d'une belle rose. Dans un coin, quelques musiciens, vêtus de souquenilles jaunes, debout et le dos à la muraille, s'exerçaient d'avance et doucement à des préludes de flûte. Enfin, le pont-levis s'abaissa. Le cortège sortit. En avant, des hommes d'armes vêtus de buffles soutenaient de leurs longues lances entrecroisées des corbeilles de fleurs. Venait ensuite, en bon ordre, une multitude de valets et de pages passementés, des tireurs d'arc, des frondeurs et des hallebardiers, et, par groupe, des virtuoses. Les premiers soufflèrent des cornets bizarres et tors. Leurs joues se gonflaient et leur corpulence nourrissait leur mine rubiconde. Quelques-uns, agiles et maigres, heurtaient en cadence des cymbales de cuivre. Le reste jouait d'instruments délicats, en marchant à petits pas, l'air attentif et les yeux baissés. Ces derniers précédaient une litière vide, portée sur l'épaule par des mulâtres, et suivie à cheval par le sire du lieu en jaquette de soie blanche brodée de perles ovales sur qui descendait sa barbe argentée. Derrière lui, une troupe de piquiers d'arquebusiers, et à la queue, le service. La cave, la cuisine et l'écurie prolongeaient le cortège. La petite chaumière devant laquelle toute cette pompe s'arrêta donnait porte close. On entendait les moutons bêler doucement dans l'enclos, et les oiseaux venaient se poser sur les ormes, et le toit d'où ils s'envolèrent, effrayés de cette approche et rassurés par le silence de la cavalcade qui se tenait immobile alentour. Un vent léger frisait les plumes des panaches, reboussait la dentelle des collerettes et éparpillait la crinière des chevaux, mais ce silence n'empêchait pas qu'un murmure eût couru dans les rangs que celle qui habitait là était bergère et s'appelait Eliade. Le sire, descendu de sa monture, s'agenouilla devant la porte et y frappa trois coups. Lui s'ouvrit, et l'on vit apparaître sur le seuil la fiancée. Elle était toute nue et souriante. Ses longs cheveux s'appariaient à la couleur d'or des ajoncs fleuris. À la pointe de ses jeunes seins rosissait une fleur comme au brin des bohières. Tout son corps charmant était simple, et l'innocence de toute elle-même, telle que son sourire, semblait ignorer sa beauté. À la voir si belle de visage, les hommes qui la regardaient ne s'apercevaient pas de la nudité de son corps. Ceux qui la remarquèrent ne s'en étonnèrent pas, et à peine si deux valets se la murmurèrent entre eux. Ainsi, en l'ingénieuse ruse qui, étant pauvre, lui avait suggéré d'être nue, elle s'avançait, grave et victorieuse d'avance, de l'embûche de son destin. Toute la ville était en émoi de la cérémonie annoncée pour ce jour-là. La curiosité s'augmentait de ce que, si on connaissait le dur seigneur par la rigueur de ses péages et de ses exigeantes redevances, nul ne savait qui allait, sa compagne, passer le portail de l'église avec lui. L'évêque avait été seulement prévenu d'avoir apparé son autel pour la circonstance et a ordonné ses plus belles liturgies, aussi sans réplique au mandement impérieux du châtelain. Se tenait-il sur le parvis, mitré et crossé, en grand apparat avec ses chantres et tout son clergé, dès que les cloches eurent par leur volée signalé l'entrée dans les murs du cortège. Le peuple, las d'attendre de considérer les lumières allumées au fond du cœur, de compter les guirlandes tendues d'un pilier à l'autre et de nombrer l'entourage épiscopal, poussa des cris de joie quand il aperçut au bout de la grand-rue, au-dessus des têtes mouvantes, les hautes lances des cavaliers qui marchaient à travers le populaire, le repoussant en haie et le refoulant vers la place qu'il encombrait déjà, car les bonnes gens aiment le faste et celui-ci, guerrier nuptial, avait provoqué leur concours et excité leur curiosité. Aussi se pressait-il autour de l'escorte qui entourait la mystérieuse litière d'où sortit l'étrange fiancé. Ils en furent d'abord stupéfaits et crurent à quelque sacrilège, fantaisie de l'audacieux suzerain. Mais, comme ils étaient pour la plupart d'âmes naïves, et qu'ils avaient vu maintes fois peindre sur des vitraux et sculptés au porche des figures qui ressemblaient à celles-là, Ève, Agnès et Vierge Martyre, douces ainsi qu'elles de leur corps et embellies aussi de doux yeux et de longues chevelures, leur étonnement se changea en admiration à penser que quelque céleste bienveillance envoyait cette enfant miraculeuse pour réduire l'incoercible orgueil et la cruauté du pécheur. Côte à côte, elle et lui s'avançaient dans l'église que j'avais visitée tout à l'heure, si paisible en son crépuscule méditatif. La nef en était alors parfumée et illuminée de cierges et de soleil. Midi flamboyait aux rosaces épanouies et aux verrières incandescentes, et les clercs, glabres et sournois, songeaient, en voyant cette fille nue qui passait au milieu d'eux, étrangère à leur concupiscence, que le sire de Carnoët épousait plat, par maléfice, quelque sirène ou une nymphe pareille à celle dont parlent les livres païens. L'évêque ne venait-il pas d'ordonner aux turiféraires de charger leurs encensoirs pour que la fumée, s'interposant entre cette visiteuse et le regard de Dieu et des hommes, isolât de son voile épais le groupe insolite qu'on apercevrait à travers une brume odorante, courbant devant l'autel une chevelure d'or et une nuque d'argent, sous le geste bénédicteur de la haute crosse qui consacrait l'échange de l'anneau. La bergère Eliade, qui s'était mariée nue, vécut longtemps avec Barbe Bleue, qui l'aima, et ne la tua point, comme il avait tué Emmène, Poncette, Bismode et Tarsile, et cette Alède qu'il ne regrettait plus. La douce présence d'Eliade égaya le vieux château. On la voyait tantôt vêtue d'une robe blanche, comme celle des dames allégoriques de sagesse et de vertu, devant qui, sous des architectures, s'agenouillent les pures licornes aux sabots de cristal, tantôt d'une robe bleue, comme l'ombre des arbres sur l'herbe l'été, ou mauve, comme ces coquilles qu'on trouve sur le sable des grèves grises, là-bas, près de la mer, soit glauque et encoraillée, ou d'une mousseline couleur de l'aube ou du crépuscule, selon que le caprice des plis en diminuait ou en augmentait la transparence, mais le plus souvent couverte d'une longue cape de laine grossière et coiffée d'une coiffe de toile, car si elle portait parfois l'une des cinq belles robes que son mari lui avait données, elle préférait pourtant leur apparat, sa cape et sa coiffe. Lorsqu'elle fut morte, après avoir survécu à son époux, et que le vieux manoir eut croulé d'âge et d'oubli, c'est ainsi qu'elle, seule d'entre les ombres, qui erre parmi l'antique décombre, y revient vêtue, et qu'elle m'apparut peut-être sous les traits de la paysanne qui m'introduisit là ce soir, et, debout de la rive, me regardait m'éloigner au bruit des rames sur l'eau morne et à travers la nuit taciturne.